23h sur RMC, l'after est là jusqu'à minuit. Tactique, mercato, quiz. Voilà en partie le programme de la deuxième heure de l'after.
À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC.
RMC, c'est un sport à mon avis qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact le football.
Le football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Samy Traoré, avec Jérôme Roten. Messieurs, dames, attention, nouvelle chronique, chronique tactique dans quelques instants, mais je vous explique ce qui va arriver jusqu'à minuit. Tout à l'heure, 23h45, le quiz. Vous vous inscrivez au 32-16, bien sûr, pour gagner un de nos nouveaux t-shirts de l'after. Toute l'actu mercato. On aura également David Lorto tout à l'heure, dans sa, lui aussi, il a son petit, sa chronique. Les saucisses de Lorto. Rapport à la Franche-Comté, tout ça. Et, bien sûr. Ouais, elles sont bonnes. Et puis donc la tactique, c'est nouveau dans l'after. Ce soir, c'est Jérôme qui donne la leçon. Jingle.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Voilà, ça c'est la première analyse tactique du soir de Patrick Vieira. Ouais. Toi, tu voulais nous parler équipes qui luttent pour le maintien en Ligue 1. Et t'as une stratégie à leur soumettre.
Non, c'est pas une stratégie, c'est un constat sur les deux premières journées y a des équipes qui se battent souvent. On a entendu, le football il évolue et il a évolué très vite ces dernières années, encore plus que sur les si on remonte sur les 25 dernières. Je pense que le football aujourd'hui est un football de transition. Pour gagner, il faut aller vite vers l'avant, il faut perturber l'adversaire. Il y a différentes sortes de perturber l'adversaire. Alors t'as des équipes qui posséder la possession de balle, c'est pas forcément un atout pour gagner les matchs. C'est pas forcément un atout. Alors il y a des entraîneurs qui prônent ça, qui veulent cette possession de balle. L'image de l'entraîneur de Nantes, Cardozo, aujourd'hui, lui, il est omnibulé par ça et ça se voit sur ce qu'il a mis en place. Alors
pour l'instant, les résultats suivent pas.
Les résultats suivent pas, mais sa méthode, elle est là. Je suis pas sûr qu'avec l'effectif de Nantes, et c'est pour ça que je reviendrai dans les détails un petit peu après, qu'avec cet effectif-là, il va s'en sortir comme ça. Pour moi, les équipes qui sont capables de gagner avec énormément de possession sont les grandes équipes, avec les meilleurs joueurs techniquement, avec un grand volume de jeu. Ce que fait Guardiola avec avec City, ce que fait Barcelone, que ce soit tous les entraîneurs qui passent à Barcelone, c'est comme ça, il y a beaucoup de possession de balle, même si ça a évolué avec le nouvel entraîneur l'année dernière. À l'arrivée, ils ont quand même été champions. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, parce que le Paris Saint-Germain est dans une autre dimension par rapport à tous les clubs de Ligue 1. Mais après, mis à part le Paris Saint-Germain, quand tu regardes les équipes qui... déjà, les grosses équipes. Je vais prendre l'exemple de Monaco et de Marseille. Souvent, on a dit, ouais, ils subissent, ils ceci, cela. Non, c'est pas une question de subir, c'est un plan tactique mis en place. L'intelligence de Jardim, alors ça fait plusieurs années qu'on le dit. Alors lui, il a été décrié sur les premières années. Rappelle-toi, Monaco, ouais, il refuse le jeu, il joue pas, mais il gagnait les matchs. Mais pourquoi il gagnait les matchs? C'est peut-être pas parce que c'est pile ou face. C'est qu'il y avait une stratégie très simple. Nous, on n'est pas là pour avoir la possession de balle. Quand ils peuvent l'avoir, ils l'ont. Mais quand ils l'ont pas, c'est pas problématique. C'est que à la récupération du ballon, ça explose à 2000 à l'heure. C'est la première passe vers l'avant qui fait mal, les courses vers l'avant, il y a 3-4 joueurs qui se retrouvent vite fait devant le but, et c'est des attaques rapides. C'est plus des attaques placées comme City, comme Barcelone et tout ça.
Attaque plus longue déjà.
Donc pour moi, les équipes, et là c'est pour ça que ça revient avec ce qu'on a vu sur le début de saison. On voit Reims deux premiers matchs gagnés. En battant Lyon quand même, donc c'est en gagnant à l'extérieur à Montpellier. On voit Nîmes. Alors le retournement de situation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réussite à Angers, on est d'accord, à 10 contre 11.
Il faut aller chercher.
Et là on voit les feuilles de match hein, pour ceux qui
ont
RMC Sport News. On voit Reims 33% de possession de balle.
Pas une victoire.
Mais ouais. Alors c'est peut-être la victoire la plus chanceuse entre guillemets parce que Ils auraient pu marquer en deuxième mi-temps sur des attaques rapides, mais quand tu vois, Lyon a beaucoup plus frappé. Mais voilà. Par contre, là, c'est flagrant. Nîmes, ils ont 38% de possession de balles. Ils ont tiré 14 fois par rapport à Marseille, 11 fois. Ça veut dire qu'il y a une stratégie. Oui, on peut pas rivaliser techniquement dans le milieu de terrain avec cette possession de balles, ce mouvement et tout ça. Mais par contre, nous, à la récup, on fait mal. Et là, exactement, le 4-4-2 mis en place par Blacard, il fonctionne à merveille. Alors, Marseille, il y avait des circonstances atténuantes, on est d'accord. Ils réaliseront pas tous les matchs contre Marseille, ce scénario-là. Mais à l'arrivée.
Tiens, autre exemple.
Regarde Dijon, qu'est-ce qu'on dit?
Dijon-Nantes.
Dijon, qu'est-ce que j'ai entendu?
2-0 pour Dijon, 31% de possession pour Dijon.
Et qu'est-ce que j'ai entendu sur Dijon? Dijon, on dit, l'entraîneur de Dijon, oh, il fait bien jouer ses équipes. C'est vrai, tout le monde le dit, à juste titre.
Ouais, ouais.
Mais lui, c'est quoi faire bien jouer ses équipes? Parce que souvent, je pense qu'il y en a qui font le parallèle entre faire bien jouer ses équipes et avoir la possession. Mais non, tu peux bien faire jouer tes équipes sans avoir la possession. Et se servir de ce que l'équipe de France a fait au Mondial. Souvent, on a critiqué le jeu de l'équipe de France et tout ça, mais c'était une belle stratégie. À l'arrivée, tu subis, mais t'es plus dangereux sur le but adverse. Quand tu vois, on verra tout à l'heure la feuille de match contre la Croatie, la finale. Il y a le scénario, on est heureux sur la première mi-temps.
France-Croatie, la France gagne, 34% de possession seulement pour l'équipe de France.
Exactement, donc 34% de possession. Par contre, tu arrives à te projeter vite.
C'est là que tu renvoies que la Croatie a tiré 14 fois.
Ouais, ça se traduit moins sur les stats. C'est vrai que là, on a une défaillance par rapport à la Croatie qui a tiré le double
deux fois.
Sans être forcément très dangereux, même si Lloris avait. Mais le match de la Belgique, par exemple, où je crois que Jérôme il l'avait aussi, même où la possession de balle elle est encore moindre. Je crois que c'est 34% pour l'équipe de France au Mondial. Mais par contre, le nombre de frappes.
L'équipe de France a peut-être donné des idées à certains coachs de Ligue 1 qui se disent.
Rappelle-toi, je me suis chopé.
Ils disent, faisons la même chose.
On s'est bien chopé avec Daniel sur les derniers jours. Regarde contre la Belgique. On a dit ouais,
France Belgique 36% de possession pour
les Belges. On a l'impression que
c'est un scandale.
Un scandale. 19, on a frappé le double de fois au but que la Belgique.
Ils ont que 3 tirs cadrés en plus.
Ça veut dire qu'il y a une stratégie qui est très claire, c'est que tu peux subir, tu peux bien défendre parce que il y a aussi une façon de bien défendre et tactiquement c'est très compliqué et très exigeant, mais par contre, il y a une stratégie à la récupération du ballon, c'est pas rendre le ballon à l'adversaire systématiquement, et c'est pour ça que pour finir, pourquoi les équipes comme Nîmes, Reims, qui ont gagné le premier match, et c'est facile de dire ça au bout de deux matchs, du moins c'est pas si facile que ça, je pense que ces équipes elles vont réussir à se maintenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie stratégie, il y a des joueurs qui ont ce talent-là,
c'est une identité de jeu.
Oui, mais sauf qu'il y a des équipes qui ont cette identité de jeu, c'est-à-dire tu refuses le jeu parce que tu mets un bloc bas et tout ça, mais par contre tu redonnes systématiquement le ballon à l'adversaire, au bout d'un moment tu cèdes.
Eux ils vont descendre.
Et voilà, et donc ça se traduit par le fait que les 5 clubs qui ont le moins de possession, et ben t'as 2 clubs qui sont en haut du tableau. Alors il y a que 2 journées. Le Stade de Reims et Dijon qui sont là.
Donc là la stat là pour ceux qui nous écoutent sur RMC, les 5 clubs avec le moins de possession, c'est Reims 36%, 2 victoires en 2 matchs. Caen 40%, Monaco 40%, Dijon 43% et Bordeaux 44%.
Voilà. Et donc donc pour moi aujourd'hui la possession ça veut plus rien dire, et le football il a évolué avec Daniel, souvent on l'a dit l'année dernière, et ça c'est vrai on n'avait pas tort de ce côté-là. Le football, on est dans une phase où les attaques rapides ont pris le dessus sur les attaques placées. Voilà.
Samy, ton avis?
Non, il a pas tort. Après sur les
fais jouer choisi comme ça, tu vas voir.
Déjà que j'apprenne à bien défendre déjà premièrement.
Exactement, parce que défendre, c'est un art, mine de rien.
À bien défendre et après de vite se projeter vers l'avant.
Ouais, mais le problème c'est quand tu dis d'abord apprendre à bien défendre, ça laisse sous-entendre que ce qui est important dans ton équipe avant tout, c'est les défenseurs. Or le foot, c'est un sport, il faut que tu marques des buts.
Apprendre à bien défendre, ça veut dire j'apprends à mon équipe, c'est pas mes défenseurs, j'ai pas parlé de mes défenseurs, j'ai parlé de mon équipe. C'est mes 11 joueurs. Apprendre à bien défendre forcément déjà.
Mais pourquoi tu leur apprends pas à bien attaquer?
Parce que une équipe qui prend pas de but, c'est une équipe en général qui est championne. L'équipe de France, ils ont pas pris trop de buts, ils sont champions du monde. Les équipes qui prennent moins de buts en championnat, c'est les équipes qu'on retrouve en haut du tableau. Forcément. Après, déjà apprendre à bien défendre, comme je disais Jérôme, c'est un art. La première des choses, c'est de bien défendre pour concéder le moins d'occasions possible. Pour une fois qu'on ait le ballon, là, je vais leur demander une chose totalement différente, c'est de se projeter vers l'avant. Il y a des transitions, ça dépend des circonstances, mais soit des transitions rapides ou des attaques placées. Parce que des fois, il faut savoir mettre le pied sur le ballon pour temporiser. Faut pas tout faire non plus à 2000 à l'heure. Donc déjà, bien défendre, leur apprendre à bien défendre, puis après, leur apprendre à bien attaquer ou bien contre-attaquer.
Voilà. On va devenir un football de contre-attaque en fait. Ouais, c'est la mode.
Bah, écoute, c'est un football de les transitions sont plus rapides.
Et un football vertical de contre-attaque.
Après, ça dépend de ton effectif.
Et les buts, c'est quand tu fais un résumé sur ce qui se passe dans le football sur les dernières années. Je te parle pas que sur la dernière année, sur les dernières années et même avant. Les buts se marquent très rapidement à la récupération du ballon en général.
Alors attends, alors moi je vais plus loin. Ça veut dire que pour jouer comme ça, il te faut un certain style d'attaquant. Ça veut dire qu'il faut des mecs.
Ah oui, forcément.
Ça veut dire que le modèle du neuf qui reste devant, un peu à carotter, à dévier les balles dans la surface, genre Trezeguet par exemple. Ça, c'est un modèle, il convient pas à ton...
Mais pourquoi?
Par contre, il te faut des mecs rapides.
Mais je comprends pas. Non, parce que toi, là, tu veux mettre que des coureurs à pied. Tu veux mettre que des mecs qui font 11 secondes au 100 mètres. Et c'est pas parce qu'ils vont faire 11 secondes au 100 mètres qu'ils vont faire le bon appel. Ils vont être bien servis par les milieux de terrain parce qu'après, il y a de la qualité technique au milieu de terrain. Il y a forcément les joueurs de côté. Mais
c'est un enchaînement de courses,
les joueurs de côté aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Moi, quand je jouais, j'ai fini ma carrière. Pourquoi je me suis replacé? Moi, j'avais un joueur de côté. Arrête, Samy, va pas dire ça parce que toi, tu peux confirmer par rapport à
certains. Mais je suis embêté un peu.
On peut quand même dire que c'était pas le plus rapide de Ligue 2.
Il
était pas agréable à voir courir, mais il allait vite quand même.
Exactement. Mais
peu importe.
Je pense que les joueurs de côté aujourd'hui, que ça soit dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-4-2 classique. Doivent avoir des qualités physiques et de vitesse supérieures à ce qu'il y avait il y a 15 ans. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème.
Tu me rejoins.
Non, les joueurs de côté, je te parle. Mais ça ne veut pas dire que le joueur de côté qui n'est pas rapide, il ne peut pas s'en sortir. Il va jouer différemment en rentrant plus dans l'axe, plus de vista.
Après, il y a l'intelligence du joueur aussi.
L'intelligence, la vitesse d'exécution, la vitesse de la passe, ça sert. Et donc, c'est pour ça que, mine de rien, tu n'as pas besoin d'avoir des attaquants qui sont toujours hyper rapides. Quoi. Tu peux avoir des David Trezeguet, comme tu dis, dans une équipe qui a un bloc plus bas. Mais tu sais, tu peux aussi avoir moins de possession de balles. Mais avec un bloc un peu plus haut, un bloc médian. Tiens, t'es pas obligé de jouer en replié dans tes 20 mètres en disant, moi, je veux pas la balle, j'attends et je les contre. Mais tu peux te mettre au milieu du terrain, mieux défendre. Mais par contre, tu fais des transitions rapides à la récupération du ballon en 2-3 passes. Ça finit devant le but. Ouais.
Aurélien est là au 32-16. Aurélien est supporter de Dijon. Je le précise, hein, puisqu'on a expliqué que Dijon avait notamment gagné comme ça face à Nantes. Salut Aurélien.
Bonjour l'équipe.
Salut Aurélien.
Est-ce que tu te régales avec le jeu actuel de Dijon?
Ah bien sûr. Enfin,
je te parle pas juste du résultat brut, hein, qui bon, c'est important, mais le jeu.
Bah, déjà, enfin, je voudrais parler un peu par rapport à hier, déjà avec Jonathan McCarthy. Il expliquait un peu sa vision du beau jeu. Mm-hmm. Moi, ma vision du beau jeu, c'est déjà, voir un match de foot, c'est ne pas s'ennuyer et voir des buts. Mm. L'année dernière, Dijon avait mis, était cinquième au niveau des buts marqués. Et c'était un des clubs où on voyait le plus de buts en Ligue 1 par match.
Donc en soi, ça correspond à ce que tu attendais, quoi.
Voilà, déjà, c'est ça. Ensuite, moi, ce que je vois vraiment à Dijon actuellement, c'est on a des joueurs de couloir qui sont vraiment très intéressants, comme par exemple Valentin Rosier. Ce joueur est incroyable. Enfin, il a 5 poumons, il peut faire des débordements, il a une qualité de centre qui est vraiment très bonne. Et en vrai, on a aussi un buteur, Léo Tavares, qui lui est à l'aise des deux pieds et qui peut aussi finir de la tête. Et ça correspondait un peu au neuf qu'on attend, c'est-à-dire un joueur pas forcément rapide, nous, mais pourtant très efficace, sans déchets. Voilà. C'est vraiment intéressant, ce type de joueur, en fait.
C'est vrai que Tavares, mine de rien, confirme, lui. Hein.
Ça va avec ce que tu disais, parce que Dijon n'est pas une équipe de possession, mais Dijon est spectaculaire et Dijon ça plaît aussi. Et je pense que le football aujourd'hui, qu'on demande un football spectaculaire, c'est pas forcément un football où tu refais des redoublements de passes.
Après, ça dépend des personnes.
Moi, j'ai été le premier à râler quand je voyais le Barça faire la tactique de la mouche tsetse à jouer au handball.
C'était très chiant. Tu vas chercher Barcelone, va chercher le Paris de Laurent Blanc. Qu'est-ce qui a été mis en place? Attention, hein, il a fait un énorme boulot. Ce que je veux dire, ce qu'il a mis en place, ça a très bien fonctionné, tout ça.
Ah, c'est un jeu de possession aussi. Hein.
Quand 800, tu parles 2-0 et qu'il joue à la baballe, franchement, tu t'emmerdais, quoi.
Oui, enfin, moi, j'étais au Parc des Princes pour PSG Caen. Je me suis emmerdé.
Oui, mais attends, là, c'est différent. C'est différent parce que tu prends l'exemple d'un entraîneur qui vient d'arriver, qui veut changer beaucoup de choses, qui a un effectif où les mecs sont pas encore à 100%. On va pas revenir sur ce qu'on a dit hier, sur la préparation des champions du monde ou ceux qui ont fait la Coupe du Monde. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs. Bien sûr que le Paris Saint-Germain, il est pas encore, on l'a vu à Guingamp, ils auraient pu même perdre ou faire un match nul. Arrivé, ils s'en sortent, mais tu verras que le Paris Saint-Germain au mois de septembre, octobre, dans la vision, du moins t'imagines, du moins t'essayes d'imaginer ce que va mettre en place Thomas Tuchel, je pense qu'il y aura de quoi s'amuser. Hein.
Tiens, d'ailleurs, on a retrouvé Jean-Louis Triot. Maintenant, il est libre, Jean-Louis Triot, il est plus dans le milieu, donc ouais. Il peut dire ce qu'il veut, et il donne son avis sur le Barça.
Barça, il m'agace avec ce style de jeu qui est dit-on spectaculaire, mais enfin, quand on fait 10 passes redoublées à 3 mètres, au bout d'un moment, ça devient énervant.
Voilà, lui, ça l'emmerde. Mais il a pas tort.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui l'emmerdent, Jean-Louis. C'est pour ça qu'il a arrêté, en fait.
Aurélien, un truc à rajouter?
Après, pas forcément. Enfin, simplement, cette saison, je pense que c'est l'année de la confirmation pour Dijon, avec, par exemple, notre coach, Olivier Deloglio, qui est vraiment... moi, je suis vraiment fan. C'est quelqu'un de humble et qui réussit vraiment ce qu'il entreprend, en fait. Il fait monter des jeunes. Par exemple, Enzo Loyodis, un jeune récupérateur qui est maintenant titulaire, qui est vraiment... qui est performant, je trouve. Il y a vraiment un gros potentiel, ce joueur.
Voilà. À la fois, c'est normal qu'il soit humble. Hein. Il est à Dijon. Hein.
Aussi.
Non.
Il est passé à Rennes.
Oui, mais là, il est à Dijon.
Il est passé.
Merci beaucoup, merci. En tout cas, Aurélien. Et à très bientôt pour reparler de Dijon.
Bonne saison à vous.
Et de tactique.
Est-ce que je peux faire une dédicace ou pas, vous?
Bien sûr, vas-y.
Vas-y.
Alors, pour Mario, en prépa avec moi, et puis aussi à Mathias, avec qui j'étais stagiaire, qui est à l'EM Lyon. Voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, on les salue. Salut Aurélien. J'ai beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live, les gars. Marin qui lui dit, posséder n'est plus gagné. Le football français a-t-il trouvé son identité de jeu?
C'est pas le football français spécialement. En quelque sorte, je pense que Didier Deschamps, il a montré la voie aujourd'hui par rapport à cette Coupe du Monde. Okay. Quand t'es champion du monde avec ce style-là, bien sûr que. Après, attention, hein, je te dis pas qu'il veut pas que son équipe ait la possession de balle. Bien sûr que par moment, il a envie que son équipe l'ait. Elle l'a eu sur certains matchs.
Un peu plus, quoi.
Mais à l'arrivée, mais il a peut-être montré la...
Le Portugais, ils ont fait la même chose.
Et les Grecs.
À peu près. Les Grecs.
Je pense, Samy, tu
vois... Non, dans l'intention de Dieu, c'était moi. Je suis d'accord avec toi.
Je pense que c'est différent. C'est différent, mais dans l'intention... Les Grecs, en 2004, je l'ai vécu, tu parlais tout à l'heure.
Dans l'intention de défendre, d'essayer de contre-attaquer vite si tu peux, ils n'avaient pas tous la qualité qu'on avait aussi cette année, forcément.
Mais eux, les Grecs, par exemple, pour parler des Grecs, systématiquement, ils se repliaient dans leurs 30 mètres, quoi.
C'était une équipe, c'était différent, bien sûr.
C'était clair et net, on ne peut pas récupérer le ballon.
Ils ont beaucoup marqué sur coup de pied arrêté, non?
On met un bloc.
Ils marquaient beaucoup sur coup de pied arrêté. Mais ils ont gagné sur contre aussi. Contre la France, c'était un corner.
C'est un but de Caresse, c'est sur le côté de Lizarazu. Je me souviens, donc mais bon, Lisa était carbo, voilà. Donc
non, t'as pas demandé, toi.
Non, mais attends, j'aime bien Lisa. Écoute, non, mais la Grèce, je pense que la comparaison est pas bonne. Les Portugais. Alors moi, le premier, j'ai critiqué. Pourquoi j'ai critiqué plus les Portugais que le jeu des Français? Je vais te dire, le jeu des Français, pas sur la phase de poule, parce que sur la phase de poule, on s'est emmerdé. Il y avait une stratégie qui était très claire, c'était de finir premier. Bon, on va pas revenir dessus, mais c'est la vérité. Par contre, ça a été spectaculaire par la suite. Les Portugais, ça a jamais été spectaculaire.
Du tout.
C'est
même jusqu'à la finale.
Une équipe qui avait déjà, je pense, dans le cœur du jeu, beaucoup plus de capacité à faire le jeu ou à t'enthousiasmer parce qu'il y avait des joueurs de qualité qu'on n'a pas vu à l'Euro. À l'arrivée, c'est un groupe très cohérent parce qu'il n'était pas champion d'Europe pour rien, mais par contre, avec énormément de réussite.
Il en faut.
Voilà. Rappelle-toi de la finale. Rien que la finale, je parle pas des matchs d'avant. Donc voilà, la France, il n'y a pas eu tant de réussite que ça, mine de rien. Peut-être la Croatie, la première mi-temps.
Ouais, après, plutôt de la France, la réussite qu'ils ont eue, c'est surtout sur le fait de. Je pense que Cavani se blesse et ne joue pas contre eux.
C'est
toujours des petits coups de chance qui te font du bien. La suspension de Thomas Meunier, c'est tant mieux pour nous. Bons joueurs quand même, non?
Daniel Riolo est caché dans ta veste ou quoi?
Non, mais ça reste des bons joueurs.
Il est rentré dans ton esprit, toi.
Non, jamais, mais ça reste des bons joueurs.
Parce qu'ils n'étaient pas là.
Petits coups de chance qui font tant mieux qu'ils n'y soient pas.
Alors, il y a quand même un truc, j'aimerais. Il y a autre débat dans le débat, pour aller au bout là. Thomas sur Direct Studio nous dit, ça veut dire que le foot s'inspire en quelque sorte du hand, de plus en plus d'importance pour le jeu de transition. Et ça, c'est un truc quand même important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un milieu de terrain, par exemple, un 6, un N'Golo Kanté ou un mec comme ça, ou à Pogba, pour prendre les mecs les plus en vue qu'on avait vu ces derniers mois. Ça veut dire que eux, aujourd'hui, dans leur façon de jouer, tu dois aussi fonctionner différemment. Nous, on a souvent vu des milieux qui allaient dans la latéralité, qui allaient donner le ballon sur le côté. Là, faut aller vertical.
Vite vers l'avant.
Vertical, une, deux touches de balle. En fait, et voilà, c'est ça le succès de cette stratégie.
Ouais, parce que il faut surtout que le milieu il soit bien équilibré. Alors, quand tu joues à deux ou à trois, c'est différent. Mais souvent, quand tu joues à trois, t'as un milieu qui reste devant la défense, qui comble un petit peu au niveau vertical.
Ils peuvent se projeter les autres.
Mais les deux autres. Ou quand tu joues à deux, bien sûr que t'as un rôle essentiel, c'est que les deux, ils doivent apporter un plus, si tu veux prendre des risques, balle au pied, avec leur passe, mais aussi avec leur course, pour aller vite vers l'avant aussi. Et dans ces cas-là, ça représente un volume de jeu énorme.
Ouais, plus important.
Il faut avoir un cœur énorme. Quand on parle d'N'Golo Kanté qui a trois poumons, moi je l'ai connu à Caen. Je confirme, il avait déjà trois poumons à Caen, il les avait à Boulogne avant de signer à Caen, et il les a eu après quand il est parti à Leicester.
Tous les rôles des joueurs en général, ils ont évolué. C'est pour ça qu'on dit que le football a évolué, comme les latéraux de maintenant, comme les six de maintenant.
T'es pas obligé d'avoir aussi dans ce système-là, c'est-à-dire avec une phase de transition rapide, des joueurs qui font que courir. Tu peux avoir un joueur avec une qualité de passe énorme.
C'est pour ça, c'est les appels.
À travers sa passe, va faire mal à
avant tout, c'est la verticalité du jeu. Voilà.
Ah, mais ça c'est.
Et ça, c'est ce qui nous a, c'est ce qui nous a aussi régalé pendant la Coupe du Monde.
Oui, mais en fait, c'est ce qui rend, et le supporter de Dijon qui a appelé, c'est ce qui rend le jeu spectaculaire. Parce que, mine de rien, ton équipe, elle a pas la possession de balle. Donc, peut-être que tu la vois plus courir après le ballon au bout d'un moment, mais par contre, à chaque fois qu'ils ont le ballon, il se passe quelque chose. Alors, il y a du déchet, hein. Par moment, et quand ça marche pas, mine de rien, sur des attaques rapides, le centre, il est pas bon, il y a beaucoup d'efforts, l'attaquant, il fait le mauvais geste, et par moment, t'as tendance à siffler parce que tu te dis, tiens, on se fait chier. Mais par contre, quand ça marche, et ça marche souvent dans ces cas-là, encore plus à Dijon actuellement.
Tu peux avoir des actions rapidement, et ça
Rapido sur Direct Studio me dit, je suis supporter de Reims, c'est comme ça qu'on a gagné le championnat de Ligue 2, et justement, on a Maxime, là, au 32-16, qui est supporter de Reims. Salut Maxime.
Oui, salut, bonsoir.
Salut Maxime.
Maxime, t'es d'accord avec Jérôme là dans sa leçon tactique du soir?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, il faut pas une équipe comme moi, par exemple, il faut pas se leurrer hein, contre les 6, 7, voire 8 équipes phares du championnat, on pourra jamais espérer avoir la possession ou quoi que ce soit. Si on veut avoir des chances de prendre des points comme Reims a fait lors des deux premiers matchs, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on sait faire. Et Reims, déjà en Ligue 2, c'était une grosse défense. Et on se projette vite vers l'avant. Alors, comme disait Jérôme, il va y avoir du déchet, c'est normal. Mais on a plus de chances de prendre des points comme ça contre les grosses équipes qu'en espérant jouer à la baballe. Forcément, on perd contre des équipes qui nous sont individuellement meilleures.
Et je pense que, tu vois, d'autant plus cette année, on aura, alors ça a été le cas déjà depuis les deux premières journées, mais on aura encore plus de surprises. Et tu verras que les gros, je retire Paris, parce que Paris, ils sont hors catégorie, mais tu verras que les gros, que ça soit Marseille, que ça soit Lyon, et que ça soit Monaco, eh ben ils auront des mauvaises surprises. Ils vont avoir de très mauvaises surprises par moment.
Alors attends, maintenant je vous pose une question, messieurs, Maxime aussi. Quand on va avoir deux équipes qui jouent comme ça, quand on va avoir Reims-Nîmes, ça va donner quoi comme match?
Ouais. Non. Mais
alors l'année dernière, il y a eu le. Excuse-moi, Jérôme, mais en tout cas l'année dernière, il y a eu le cas. La première journée, Reims gagnait Nîmes 1-0 et au match retour, c'était le match où les deux équipes comptaient et ça avait donné un match super ouvert. Je pense que il va y avoir deux matchs complètement différents. Il va y avoir les matchs contre les Reims ou Nîmes contre des grosses équipes. Et Reims ou Nîmes contre des équipes qui leur sont, je pense, à peu près équivalentes, où là, par contre, ils vont essayer de plus jouer, surtout à domicile. Après, là, ça va être des matchs où ça va essayer de jouer un peu plus. Alors, ce sera peut-être pas forcément des matchs du même niveau que Marseille-Monaco ou quoi que ce soit. Mais, en tout cas, ça va plus jouer, ça va essayer d'avoir plus la possession, parce que c'est quand même des équipes qui savent le faire. L'année dernière, qui l'ont fait. En Ligue 2, il y a des équipes qui ont essayé de faire pareil contre nos deux équipes, qui n'ont pas joué, et pourtant, ça reste quand même deux équipes qui finissent avec les meilleures attaques et la meilleure défense pour Reims, quoi. Ils savent le faire.
Ouais, Jérôme. Tu sais, Gilbert, moi j'ai eu des entraîneurs, je parle pas quand j'étais forcément au PSG ou même avec Deschamps à Monaco, mais j'ai eu des entraîneurs à Bastia par exemple, Frédéric Hans, où il était pas omnibulé par la possession de balle. Lui, il voulait cette transition assez rapide. solide, on était assez spectaculaire, nous, à l'époque à Bastia, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, on marquait beaucoup de buts. On avait des joueurs aussi avec du, avec beaucoup de talent offensivement. Il y avait Cazerie, il y avait Thauvin, il y avait Modeste devant qui avait fait une grosse saison. Ça n'empêche que même si t'es pas omnibulé par cette possession de balle, quand t'es joueur de foot, tu préfères avoir le ballon dans les pieds. Tu préfères, même si tu vas vite vers l'avant, tu préfères le récupérer vite, faire courir l'adversaire plutôt que toi courir après le ballon. Donc ces équipes-là, quand elles vont jouer des équipes qui sont en effet du même niveau d'un point de vue technique, et ben elles vont se battre pour avoir cette possession de balle. Mais ça n'empêche que tu peux avoir la possession de balle, encore une fois, Samy le disait tout à l'heure. C'est pas parce que t'as la possession de balle que d'un seul coup tu dois faire des redoublements de passes. Tu peux garder ton ta verticalité, aller vite vers l'avant. Par contre, quand t'as la possession de balle et tu l'as un peu plus contre les petites équipes, eh ben là, ça te permet de récupérer. Parce que ce qui est le plus dur pour ces petites équipes, mine de rien, dans sa façon de faire, c'est que c'est une grosse débauche d'énergie, une intensité physique énorme. Il faut avoir un volume de jeu énorme. Reims contre Lyon, ils ont passé plus de temps à courir après le ballon et tout ça. Mais à la récupération du ballon, ils ont essayé de poser des problèmes. Mais par contre, quand tu attaques rapidement, tu as du déchet par moment. Des fois, tu vas au bout. Mais quand tu as du déchet et que le ballon il revient systématiquement, ça veut dire que dès que tu le récupères, il faut aller vite vers l'avant pour faire mal à l'adversaire. Mais eux, l'adversaire, ils te font courir. Donc, tu récupères jamais. Et quand t'as ces phases de possession, et ben là, ça te permet quand même de souffler. Donc, contre les petites équipes, ça sera plus simple.
Voilà, c'était la leçon tactique de Jérôme Rotten, qui reviendra peut-être sur d'autres sujets cette saison. On verra
plein de fois,
en fonction de sa forme, de son aspiration.
Ouais, et puis de durée de parole que j'ai, parce que Daniel, des fois, encore plus qu'on rentre de vacances.
En tout cas, on fera de la tactique régulièrement. Si vous aimez ça, vous allez vous régaler cette année avec nous. Dans quelques instants, le mercato, toutes les infos du jour et l'Allemagne avec les saucisses de l'Orto.
La grosse.
RMC, le football show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Rotten, avec Samy Traoré, qui c'est qui nous rejoint, parce que la Bundesliga reprend ce week-end. C'est David L'Orto. David, bonsoir.
Allô, Freunde, salut messieurs, salut à tous. Et Gilbert.
Oui.
Gilbert, tu sais quoi? Samy Traoré, moi, je l'ai connu à Nice. Grand respect pour ce grand monsieur.
Merci, c'est gentil.
Avec José Cobos?
Ben oui, parce qu'on s'est pas vu depuis Nice, on s'est pas parlé depuis Nice. Tu te rends compte, Samy, ça fait une douzaine d'années à la louche.
C'est vrai, qu'est-ce que tu foutais à Nice? T'étais censé être à Hambourg ou à Rostock.
J'ai commencé ma carrière à Nice matin et Samy était joueur à l'époque avec Gernot Rohr comme entraîneur.
C'est vrai, effectivement. Nice, hein.
En 2004.
Ouais, jusqu'à 2004.
Non, mais je t'ai jamais croisé, toi, Nice matin, à Monaco. C'est bizarre.
Non, parce qu'il y avait des titulaires, si tu veux. Moi, je commençais, j'étais modeste, Jérôme, je suis pas comme toi.
On te donnait pas la possibilité de passer le péage pour aller à Monaco.
En plus, tu connais.
Tu restais à Nice.
Nous, c'est la ville, aussi, hein. c'est le peuple, eux, là-haut, la bourgeoisie, la principauté, là-haut, c'est pas pour tout le monde.
T'as vu la jalousie, toi?
Exactement.
T'as vu la jalousie?
Dis-moi, t'as joué le fameux match Monaco-Nice où Agali met un triplé ou un 4-0?
Il dit oui,
on perdait 3-0. Je sais, on perdait 3-0, on gagne 4-3.
Moi, j'étais plus là.
Victor Agali.
Ouais, il a mis un triplé. C'est pas Marama qui met combien, je crois, aussi.
On s'en fout.
Mais non, on s'en fout pas, t'es malade ou quoi? Tu t'en fous toi, mais les supporters niçois à l'époque, ça leur fait du bien.
Avec Poussin Mélin.
Avec Poussin, hein.
Ah bah, oh, Poussin Mélin, ah, oh là là.
Et alors?
Il est marqué à la dernière.
José Cobos.
Il nous a volé le titre.
Qui c'est qu'il y avait encore dans ces années-là?
Imagine. Si on m'avait dit que Poussin Mélin allait me
Kaba Diawara,
Malek Chirac,
Noé
Pamaro,
Noé Pamaro, les grosses cuisses de Noé Pamaro.
Ah oui, Noé Pamaro, quelle équipe.
Varro, il joue toujours.
Tu sais, quand tu me dis ces noms-là, je me
Everson.
Tu sais, j'ai des flashs comme ça.
C'était un bon bourrin.
Il était costaud.
Ils ont pris des bouilles.
Valenconi dans les buts.
Ouais, Bruno aussi, ouais.
Oh, les flashs que j'ai.
J'avais déjà les cheveux blancs.
C'est Hugo Lloris,
tout ça, là, je me dis.
Hugo Lloris,
Cobos, tout ça. Bam, les bouillons que je vous ai mis.
Qui? Avec Monaco? Non, jamais.
Et en face, le jour où vous. Le jour où vous gagnez.
Mais t'es fou.
Le jour où vous gagnez contre Monaco, en face, il y a Adebayor, Chevanton, Malcon,
Saviola.
Saviola.
Ouais, exactement. C'est l'année après, quand on est parti, on a laissé un vide énorme. Donc, c'était pas facile pour Monaco. Et là, ils ont réussi à s'imposer alors qu'ils avaient pu gagner depuis 3 ans.
Mais regarde sur ton téléphone. Regarde les derbies de Nice. Écoute, Nice, Monaco. J'ai perdu qu'une fois, moi, avec Nice contre Monaco. C'est l'année où Ludo, il nous aurait 2-1, on perd. Mais sinon, on a gagné à chaque fois. On vous a éliminé en demi-finale de Coupe de la Ligue.
Mais Samy, pourquoi tu t'énerves?
Mais je te dis la vérité.
Hier, je t'ai mis. Je t'ai mis le nez dans le caca hier avec ton match du Mali, là. Mais tu me disais que ça avait fait 3-3, on a mis 3-2, et là, t'es en train de me vanter un truc qui est jamais arrivé.
Tu me parles de 4-1, de 4-1 à 3-2, il y a une différence, mon ami, quand même, non?
Par contre, tu dis aussi les places que tu me demandais pour nous regarder en Champions League, là.
Quand?
Bah, c'est ces années-là. Nous, on jouait la Champions League, donc tu me demandais des places.
Ce jour-là, énorme match de Serge Dié. Personne s'en souvient.
C'est un bon joueur.
Bon, revenons à la
Il y avait une loge pour les Niçois en Ligue des Champions pour venir nous voir.
Excuse-moi, on a un club qui remontait de Ligue 2.
Vas-y, on s'en fout. Allez, vas-y. Les saucisses de David.
Avec la principauté de Monaco. On a bien du pognon, on voit.
Et c'était bien un but de VRU.
Merci, tu vois, j'en souviens alors.
Alors, le Bayern, mon petit Lorto, est-ce moins bon ou moins fort ou plus fort que l'an dernier?
Eh ben, on va vite le savoir, dans un certain sens, Gilbert, puisque ça reprend ce vendredi soir avec un match d'ouverture de la première journée, un match alléchant contre Fenheim. On a parlé de Fenheim hier soir sur RMC, et ça a fait son petit buzz parce qu'à Hoffenheim, on veut jouer le titre. Alors, vous avez le droit de rire, mais on va voir au fil des journées ce que ça peut donner. Et il y a déjà une confrontation pour le Bayern dès ce vendredi, reprise de la Bundesliga contre Fenheim. Ça sera déjà un premier indice. Moins fort ou plus fort, je ne sais pas. En tout cas, le Bayern est sur la continuité avec les anciens. J'ai glissé à notre producteur Jérôme Thomas tout à l'heure un 11 type, et on s'est aperçu tous les deux qu'en fait le 11 type de début de saison, c'est très proche de ce qu'on connaît, avec Robben, avec Ribéry, avec Neuer, avec Boateng, avec Hummels, avec Alaba, avec Kimmich, avec tout le monde, pour ainsi dire. Et en plus de cette ossature-là, j'ai oublié de citer Lewandowski qui est resté. En plus de cette ossature-là, oui, il est encore là. Ce qui a pesé lourd dans le fait que Lewandowski finalement rentre
Müller,
un peu dans le rang.
C'est étrange parce que Müller, c'est quand même l'un des joueurs les plus moches à avoir joué du football européen, et c'est le préféré de Lorto.
Il l'a quand même mis dans le chapeau numéro 1, tu vois.
Oui, mais on
est en train de se faire.
Je suis sur le temps long, je suis pas dans l'immédiateté.
Ah oui, t'as raison.
Non, pour vous dire sur le Bayern que.
Ah, ouvre les yeux alors.
Et Lewandowski est sans doute resté, et devrait aussi rester, parce qu'on peut pas jurer avant la fin du mois d'août, mais devrait rester parce que Niko Kovac, aussi nouvel entraîneur, a apporté une forme de jeunesse aussi dans le management. On aura l'occasion d'en reparler dans la saison, et il a su convaincre, je pense, un joueur comme Lewandowski de relever de nouveaux défis avec le Bayern. En plus des joueurs qu'on a cités et qu'on connaît, qui sont là depuis un certain nombre de saisons, 10, 12 ans pour Robben et Ribéry, on a apporté à ce groupe-là deux nouveaux joueurs qui sont très intéressants. Serge Gnabry, le petit dribbleur qui vient d'Offenheim, qui est arrivé maintenant au Bayern, et qui va essayer d'apporter ce qui a parfois manqué aussi à l'équipe nationale, c'est-à-dire la petite étincelle en attaque, le petit dribble qui permet de faire la différence. Et puis Leon Goretzka, ce milieu de terrain relayeur formidable, encore tout jeune, venu de Schalke. Voilà deux recrues qui sont pas forcément dans un 11 titulaire au début de la saison, mais qui vont forcément avoir les dents longues, chercher à jouer en équipe nationale aussi, chercher à s'intégrer. Donc le Bayern plus fort, je sais pas. En tout cas, on est dans la continuité et on a fait un recrutement anticipé, intelligent, avec ces deux jeunes qui vont renforcer l'effectif.
Ouais, ils vont finir avec combien de points d'avance cette année?
Oui, alors toute la question, et justement ça fait débat en Allemagne, j'avais envie d'en parler avec vous, c'est bien que tu me lances là-dessus Jérôme. Toute la question, et ce qu'on se dit en Allemagne, c'est ça va encore être un peu court en Ligue des Champions pour gagner, sous-entendu on va avoir de l'avance en championnat. C'est-à-dire que le Bayern est un peu entre deux eaux, entre avoir 15 points d'avance en championnat, je schématise, et échouer, si on peut mettre ce terme-là, parce qu'évidemment échouer, si on arrive en demi-finale, c'est pas un échec, mais vous voyez ce que je veux dire sportivement. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions en gardant l'équipe actuelle? Je sais que les confrères en Allemagne sont sceptiques et sont circonspects à ce sujet. On se dit que il va peut-être encore manquer un petit quelque chose en Coupe d'Europe cette année. Mais en championnat, je suis d'accord avec toi, Jérôme. On a cherché cet après-midi aussi, en discutant un peu avec le producteur de l'émission, quel adversaire il allait pouvoir avoir au Bayern. C'est pas facile de trouver un adversaire qui puisse être un peu à la hauteur et qui puisse rivaliser sur les 34 journées.
T'as des noms?
Ouais, alors il y a trois équipes, moi, qui me plaisent bien. On va écarter tout de suite Et je me mordrai les doigts si jamais je suis en tort dans quelques mois. On va écarter tout de suite Leverkusen, qui plaît bien en Allemagne parce qu'il y a un beau potentiel offensif, parce qu'il y a des joueurs qui sont intéressants comme Kai Havertz, qu'on va peut-être découvrir petit à petit en Europe aussi, qui sont des jeunes qui sont bons. Mais moi, j'écarte Leverkusen parce que pour moi, c'est pas une équipe qui a la moelle pour jouer le titre, qui est pas assez complète. On pourrait garder en tête peut-être Schalke, parce qu'il y a un super entraîneur, Tedesco, parce que ça reste une grosse écurie du championnat qui peut jouer, qui peut être concurrent sur une partie de saison, au moins pour jouer la 2-3e place. Dortmund, forcément, parce qu'on a encore des grands noms dans ce club. On va pas les citer ce soir, mais nos auditeurs connaissent les joueurs de Dortmund. Et évidemment, c'est le niveau Ligue des Champions. Et puis, j'ajoute, et j'en parlais hier soir, j'insiste avec vous ce soir dans l'after, Hoffenheim. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est dirigée par un entraîneur, Nagelsmann, qui va partir l'an prochain à RB Leipzig. C'est déjà fait, c'est déjà calé, mais qui veut progresser encore. Ils ont fait 4e il y a 2 ans, 3e l'année dernière. Ils veulent faire mieux cette saison. Et Nagelsmann a dit, on joue le titre cette année. Donc ça va être très intéressant de suivre cette équipe. Il n'y a pas de stars. Il y a des joueurs qui ont les dents longues. C'est une équipe intéressante, cohérente, un vrai esprit de groupe. On sait, on a vécu en France.
C'est un peu comme si la Mouchi arrivait en lui disant, Rennes joue le titre.
Oui, c'est un peu ça, mais on a en France, mine de rien, si tu regardes un peu, alors c'est rare,
recrues,
mais ça arrive dans les 20 dernières années, t'as des fois un club qui a réussi une belle saison.
Il y a eu des recrues là-bas, au Hoffenheim?
Il y a eu surtout des départs. Les deux meilleurs joueurs sont partis. Serge Gnabry, parti vers le Bayern.
Qui perd ses deux meilleurs joueurs, puis là, il dit on joue le titre.
Non, mais parce que David, moi, bien sûr, y a pas de problème, mais après, pour la bataille en Ligue des Champions, la 2-3-4e place, d'accord, mais le Bayern, aujourd'hui est intouchable parce que, déjà, le Bayern, ils vont faire, minimum 80 points cette année. Les autres équipes, si tu regardes le classement de l'année dernière, la deuxième, elle a dû faire 60 points et les autres 55 points. Donc, ça voudrait dire que pour concurrencer le Bayern, il faudrait que ces équipes-là, elles marquent 25 voire 30 points de plus que l'année dernière.
Mais tu peux pas reprocher à un entraîneur jeune parce qu'il a 31 ans d'avoir cet appétit.
Non, mais bien. Mais attends. De toute façon, je reprocherai jamais à un entraîneur au début d'un championnat de dire on veut gagner le championnat. Aujourd'hui, on a tout avec Samy, on a joué au football. Quand tu commences un championnat, que ça soit avec Nice, avec Paris, avec Monaco, ou c'est pas quoi, t'as envie de le gagner le championnat. Et bien sûr que tu vois tes ambitions à la baisse au bout de quelques journées parce que tu te rends compte que t'as des équipes qui sont intouchables.
Ouais.
Alors après, si je vous donne les recrues, ça va pas forcément vous parler, hein, parce que vous avez. Alors si, on a Isaac Belfodil qui arrive maintenant à Hoffenheim, qui est un international algérien qu'on connaît parce que on l'a connu à Lyon notamment. Bon, mais c'est pas un grand nom du football européen. On a un joueur comme par exemple comme Vincenzo Grifo, germano-italien, qui est un super joueur offensif milieu de terrain, qui a fait de très belles choses avec Fribourg. Mais là encore, ça va pas parler à nos auditeurs qui sont des spécialistes de Manchester City ou Barça ou Real ou Juve. Mais voilà une équipe qui, enfin en tout cas, je vous avertis dès aujourd'hui, il faut la suivre. Alors le problème aussi pour un club, c'est un village Hoffenheim, hein, on est bien d'accord. C'est perdu au milieu de la campagne, à proximité de Karlsruhe et Mannheim. C'est un club qui va avoir le problème de jouer la Ligue des Champions pour la première fois de sa jeune histoire aussi. Et donc il va falloir accepter, supporter la triple charge, comme on dit en Allemagne, championnat, Ligue des Champions, coupe. Voilà, ça va être une complication supplémentaire.
Non mais avec tout ce que t'as dit, ils perdent leurs deux meilleurs joueurs. Ils vont découvrir la Ligue des Champions. Et on sait tous que ça te bouffe une énergie folle, même quand t'as des ambitions qui sont un peu moindres quand tu t'appelles Hoffenheim en Ligue des Champions par rapport au Bayern de Munich. Mais les retours de Ligue des Champions, là, quand tu dois aller batailler ou aller arracher des points chez un relégable ou je sais pas où là en Allemagne, il y a des matchs qui vont être difficiles. Je vois pas comment une équipe pourrait dépasser le Bayern
Munich. Merci David.
Merci messieurs. Alors juste, on prend date ce soir. C'est un peu un rebrousse-poil de ce que dit Jérôme. Moi, je crois que les équipes qui vont tomber en Ligue des Champions contre Hoffenheim, qui va être chapeau 3 ou 4, hein, je sais pas exactement, mais qui va être au fond du fond des chapeaux, puisque c'est leur première participation. Les équipes qui vont rencontrer cet adversaire, ça va être compliqué et vous allez voir que ça va être une équipe vraiment vraiment gênante en Ligue des Champions. On en reparlera au fil de la saison.
J'espère que tu seras autant inspiré là-dessus que sur les chapeaux de avant la Coupe.
Merci David.
Oui,
ciao David.
À très vite. Bonne fin d'émission.
Deux trois infos mercato les gars, tout de suite.
C'est combien?
30 000.
Tintin, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Pour vous dire que l'imbroglio Clinton NJ continue.
Ah non.
Donc hier, il arrive à Lisbonne pour être prêté au Sporting. Et aujourd'hui, il est revenu à Marseille puisqu'il a passé des examens médicaux qui n'ont pas satisfait le club portugais. Donc l'OM communique, communiqué de l'OM qui indique que donc les deux clubs ne se sont pas parvenus à un accord sur les termes contractuels. Nous, les infos qu'on a, c'est que c'est la visite médicale. Hein. Et puis donc le joueur s'engagera pas et que donc il revient et qu'il est dispo pour le match contre Rennes ce week-end. Voilà.
Eh ben.
Coup dur pour Marseille.
Bon, c'est sûr, moi je me mets à la place du joueur. Franchement, c'est terrible. Le joueur il se met dans la tête. Bah déjà il avait envie de partir parce que il veut du temps de jeu. Et, et il arrive, on le refuse et il se retrouve à être Marseille donc en rôle de même pas de doublure. Plus que ça, bah écoute, bon est-ce courage, que... il va falloir qu'il soit fort dans sa
est-ce
tête.
Est-ce que c'est vraiment un problème à la visite médicale aussi?
Bon, à confirmer. En tout cas, concernant l'OM, hier, Hérault nous disait, on cherche un joueur pour remplacer Zambou Anguissa. Aujourd'hui, on apprend quand même qu'ils se sont penchés sur le cas d'un gardien de but, Onana, gardien camerounais de l'Ajax. Donc ça veut dire pour remplacer Mandanda. Hein. Donc ça veut dire que t'as refait signer Pelé en l'empêchant de partir pour finalement prendre un troisième. C'est quand même assez incroyable. Donc si tu fais venir Onana, c'est pour le faire jouer, pas pour.
Du moins, il va jouer avant Pelé. Par contre, il sera pas avant Mandanda. Comme on
par contre, le problème, c'est que l'Ajax, pour l'instant, veut pas le lâcher.
C'est un bon gardien.
Voilà, la presse néerlandaise dit hors de question pour l'Ajax de se séparer d'André Onana, qui pourtant donc est désiré par Marseille.
Mais c'est même pour le joueur, c'est un choix bizarre parce qu'il va arriver, même s'il va jouer là sur les prochaines semaines, Mandanda il va revenir.
L'Ajax joue avec des champions, non? Ils sont trop préliminaires.
Ouais, ils jouent ce soir, ils sont quasiment qualifiés, ils ont gagné 3-1. Là,
donc, non, 3-1, t'es pas encore quasiment qualifié.
Contre le Dynamo
Kiev. Arrête un peu avec tes...
Bon, ils sont bien partis.
3-1, tu peux perdre 2-0 au retour. Et...
Dans le bas-bord. Marcos Llorente, joueur du Real, intéresse l'OM pour remplacer Zambou Anguissa. C'est ce que dit la presse espagnole aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas d'infos en plus pour l'instant. Il faut dire également que Luis Campos, le directeur sportif de Lille, a été tout à l'heure dans Team Duga. Il dit qu'il devrait y avoir d'autres départs. Pépé devrait peut-être partir. Donc voilà, c'est lui qui a le plus de valeur aujourd'hui.
Tonnant, ouais.
Aujourd'hui, El Ghazi est parti en Angleterre.
Ouais, on a vu ça. Et, mais Pépé, non, parce que Lille fait un bon début de saison.
Ah, c'est ça, ils sont obligés de vendre. C'est ça qui est chiant pour eux.
Ouais, parce que là, ça me paraît cohérent de ce qui est mis en place. Ils sont bien partis, 4 points en 2 matchs. Écoute, des fois, tu sais, t'as des années qui sont tellement compliquées que la deuxième, tu peux te réveiller.
Tu morfles encore.
Non, mais s'ils gardent la plupart des joueurs, ils vont faire une bonne saison.
Mais ils sont obligés de vendre.
Bon, écoute.
Et puis, à Benfica, figurez-vous qu'on apprend aujourd'hui que Ruben Dias a prolongé. Donc le gars, il était sur le point d'aller éventuellement à Lyon. Et là aujourd'hui, on apprend qu'il prolonge. Alors là, faut décrypter là. C'est quoi? Parce que tu peux en même temps, tu peux prolonger pour te barrer, mais ça semble un peu surréaliste là.
Tu peux appeler Edouard G là, qui nous fasse un compte rendu là de pourquoi, le pourquoi du comment.
Bah, en même temps, Edouard G, il bosse pas à Lisbonne, mais.
Bah, ils vont finir avec De Nayer et Mariano. Hein.
C'est
pas le choix. Non,
mais franchement,
et Marcelo.
Marcelo.
Mais c'est un coup dur pour Lyon, c'est sûr, parce que je pense que il voulait vraiment clôturer ce dossier. Et qui comptait aussi sur l'arrivée de Naïe, mais aussi sur son arrivée à lui pour refaire un petit peu la charnière centrale. Donc ça reflète exactement ce que j'ai dit hier. Je pense que il y a au bout d'un moment dans les prises de décision pour attirer des joueurs, il faut plus à l'Olympique Lyonnais.
Pour être complet sur NJ, info de Nicolas Villas, qui sur le foot portugais évidemment est le top du top, hein, le mec incollable, qui sait absolument tout sur FRNC et le Vitoria Setúbal. Il nous précise qu'en fait non, il n'y a pas de problème de visite médicale pour NJ. Officiellement, c'est pas d'accord entre les deux clubs. Alors c'est quand même bizarre. Ça veut dire que l'une des deux parties aurait peut-être changé d'avis au cours de la journée là. Concernant
je pense que c'est du côté portugais qui sont rétractés.
Il y a un loup apparemment.
Bah surtout que c'était quasiment gratuit, c'était un prêt payant.
Un prêt payant, ouais.
Ou peut-être il y a quelqu'un qui a envoyé la vidéo.
Je crois, il y a même pas d'option d'achat.
De l'extérieur du pied d'Angie peut-être.
Ouais. Bah là ça a été fin là. La preuve.
Messieurs, dans quelques instants, le quiz. Attention.
La revanche.
Cousin un jour, couche toujours. Vas-y.
Exactement. C'est tout de suite avec vous. Dernière carte importante concernant Amiens, je voulais vous la donner. Vous savez que Guano, le défenseur et capitaine de d'Amiens, ouais, veut partir à Anderlecht. Bras de fer entre le joueur et le club. Et aujourd'hui, Guano n'était pas à l'entraînement. Arrêt maladie. Donc ça sent très mauvais quand même, cette histoire.
Bras de fer.
Guano, un joueur très collant.
Ouais, sur le coup, ici. Ouais, vaut mieux.
RMC, le football show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, Jérôme Rantaine, Samy Traoré, bien sûr. Une petite info lensoise, juste avant de passer au quiz. Vous savez qu'il y a un Metz-Lens bientôt en championnat. Il y a deux Metz-Lens, en fait, la semaine prochaine. Il y a Lens-Metz en Coupe de la Ligue. Et Metz-Lens en championnat le 1er septembre. Interdiction préfectorale de déplacement, parce que c'est chaud entre les supporters des deux clubs. Lens prévient aujourd'hui, attention, nos supporters veulent quand même venir, donc on prévient. Et alors, dans l'arrêté préfectoral, il y a un truc très étonnant, c'est que parmi les décisions qui motivent l'arrêté préfectoral, il y a aussi une histoire liée à Nancy, puisque Metz a recruté Vincent Ognon comme adjoint, qui est l'ancien entraîneur de Nancy. Donc, il y aurait là une triple problème entre Lensois, Messin et Nancéen. Donc sur ce match, donc voilà, la décision de la préfecture. C'est cool. Info à suivre.
Non mais c'est incroyable de partir dans des trucs comme ça, sachant que c'est le match c'est vraiment le duel de cette année en Ligue 2. Ouais. Quand tu vois les débuts de saison, que ça soit Metz ou Lens, ils dominent le championnat. Tu peux te régaler à avoir une telle affiche comme ça.
Ça va être une belle tête.
Ça, c'est ce que.
C'est bête.
Messieurs, voilà. Le quiz. Arrive. Alors, qui est-ce qu'on a pour le quiz pour jouer avec
Tremble,
vous?
Tremble,
Roten. Ah bah oui. Bah.
Tremble.
Ah, regarde.
Au regard.
On a Adèle et Ahmed. Adèle, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Adèle.
Salut Adèle. Adèle, tu veux jouer avec Samy ou avec Jérôme?
Bah moi, je vais jouer avec la recrue star du Mercato, Samy.
Excellent.
Ah, merci.
Ahmed, bonsoir.
Bonsoir.
Ahmed, t'es avec salut Jérôme Roten. On verra si c'est un bon choix. Le quiz.
En logique, oui.
Sur RMC Sport News, c'est annoncé le duel Roten-Traoré, qui sera le plus mauvais, on va le savoir dans quelques instants. Attention, on a ressorti une feuille de match. Tout le monde joue, bien sûr. PSG-OM de la saison 2008-2009, 28e journée, 15 mars 2009 au Parc des Princes. Évidemment, ils étaient tous là, les Roten et les Traoré. Attention messieurs, êtes-vous capables de me dire...
Putain, mais comment tu peux sortir une feuille de match? On perd 3-1 contre Marseille.
Exact.
C'est vraiment un con.
Eh ben, faut assumer, hein, que tu te
dis.
Attention messieurs, qui portait ce jour-là le numéro 2?
Bernard Mendy.
Au Paris Saint-Germain.
Pichot.
Il n'est pas français.
Ciara.
Ciara.
Marcos.
Marcos Ceará, Jérôme, c'est bon. 1-0 pour ouais. Abed et Jérôme. Attention, je vous donne la composition complète du banc, la composition presque complète du banc parisien ce soir-là. Edel, Mabiala, Chantôme, Pancrate, Kezman, Jean-Eudes Maurice. Il en manque un, c'est qui?
Traoré.
Oui, exact, Samy Traoré.
Mais lui, je
bien joué, Ahmed. 2-0.
T'as mis sur le banc.
C'est quel match celui-là?
Mais
3-1 pour l'OM.
Oui, j'étais remplaçant. Ouais.
Voilà. Ahmed, bien joué. Ça fait 2-0.
Fabrice, c'est normal. Il avait son siège à son nom. Mais...
Non, parce que je pensais que c'était le match où le premier que j'avais joué sous l'ère de Guy Lacombe, là,
ah ouais.
Où on perd, tu te souviens? Ouais. Même Bernard Isbès, là, où on prend le penalty. Je pensais que c'était ce match-là.
Attention, qui ce soir-là portait le numéro 9 à Marseille?
Nyang.
Maoulida.
Nyang, Randao.
Brandao,
bah oui, c'est un Yang, c'est le
roi. Adèle, Brandao. Et mec, vous avez perdu.
Non, c'est pas moi, c'est Ahmed.
C'est Ahmed?
Ouais, mais arrête, il y a 2-0. Il y a 3-0.
2-0.
2-0.
Non, 3-0.
Non, 2.
Ceará plus Traoré plus.
Ah, avec Brandao.
Brandao. Vous avez perdu contre Brandao, les mecs. 3-1. Allez, on passe au quiz suivant parce que franchement, c'est pas glorieux.
Mais il est complètement nul celui-là.
Attention. Ah mais non, parce que t'as perdu.
Bah non, mais c'est nul.
Attention, 3-0 pour l'équipe Ahmed Jérôme Roten. Attention, on a préparé un quiz Traoré.
Ah
mais je vais le perdre en plus, tu imagines.
Mais dans les Traoré, il y a pas que Samy, hein.
Ah oui, bon. Bah, je sais.
Eh oui. Ouais. Attention, où jouait Bertrand Traoré avant de signer à Lyon?
Auxerre.
Ajax Amsterdam.
Ajax Amsterdam.
Ah non.
Adèle, bien joué. 3-1. Bien joué, Adèle.
Vous êtes trop... Attends, c'est quoi cette tribu, là?
Attention. Adèle et Ahmed, là, sur la prochaine question, vous ne jouez pas, parce que sinon, c'est facile de vous aider sur le web.
Ah, les cousins, tu les as.
Attention, Jérôme et Samy, vous êtes les seuls à jouer. Quelle est la taille exacte du monégasque Lassina Traoré?
1,98.
Non.
2m01.
Non.
2m03.
2m03, bien joué, Samy.
Putain, il est si grand que ça.
3-2.
Ça,
t'imagines?
3-2.
Il a mis des buts de la tête, lui, en France?
Bah je crois pas.
De la tête, oui, des pieds, non.
Attention, quelle est la nationalité du Lyonnais Bertrand Traoré?
Guinéen.
Burkinabé.
Burkinabé. Ouais. C'est Adèle. 3-3. Ouais. Le retour. Oh, le retour.
Ouais, mais attends, mais là, je me fais enfler.
Quoi, tu t'es enflé?
Sur les Traoré.
Bah, les Traoré.
Ça va, les Rotten, ouais. On peut les faire, t'inquiète, on les connaît aussi. T'inquiète pas, je connais papa, la maman, t'as oublié? Attention, les Rotten.
Ah, on parle des parents.
Bah, avec tout le respect que j'ai pour eux.
3-3, attention, c'est pas fini. Attention. Quel est le prénom du latéral droit titulaire de Rennes Traoré?
Amari
Traoré, bien joué. Samy, ça fait 4-3.
Oh là là là, comme le Monaco Nice, c'est beau ça.
On peut changer de thème ou pas?
Non, on change pas de thème. 4-3, attention. J'ai 52 ans aujourd'hui. Je suis un Traoré qui a joué à Bastia, au Mans, à Metz. J'ai inscrit 97 buts hein, à Guignon. 97 buts à Guignon.
Amara Traoré,
bien joué Samy, 5-3. Amara Traoré,
bah oui.
C'est lui, c'est Amara.
Bah oui, bah voilà.
Putain, je me souviens de celui-là.
Amara Traoré.
Tu l'as joué.
Ah oui, je l'ai joué.
Il était costaud.
5-3. Attention, avec quel club Jimmy Traoré a-t-il remporté la Ligue des Champions?
Liverpool.
Samy, bien joué, ça fait 6-3.
Bah, je l'ai gavé.
Mais vas-y, on peut pas passer un autre quiz là, mais vous êtes des tarés quoi.
On a pas fini.
Attends, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi avoir ma petite 10 minutes de Traoré là.
Franchement, je me suis déjà barré avant la fin d'un quiz.
Attention.
Samy, est-ce que t'es prêt à faire all-in? Tu remets tout en question. On repart à 0-0 sur la dernière question. Ou alors tu dis, j'ai la victoire acquise.
Moi,
je garde la victoire.
Pour moi, je suis joueur, mais vis-à-vis de l'auditeur, il faut qu'il gagne.
Moi, si vous me donnez un t-shirt de l'after, il n'y a pas de souci, je mets tapis.
Voilà, tu vois,
aller, tapis, sûr. Attention.
Tapis,
c'est pratique.
Je crois que tu vois pas, là.
Tapis,
attention,
c'est pratique.
Attention, il essaie de regarder par-dessus les fiches, là-bas. Je le connais par cœur, c'est un tricheur.
Mais je vois pas.
Même au petit jeu, il trichait.
C'est vrai?
Bah, il est trop malin.
Jamais, il est trop malin.
Attention, nous cherchons mon prénom. Je suis un Traoré gaucher. Ayant joué entre 2006 et 2015
Bertrand Traoré.
À Auxerre.
Mais oui, c'est l'autre, là.
Alain Traoré, victoire éclatante.
Monsieur
Samy Traoré, mais oui.
Monsieur le Traoré.
Adèle, on va t'envoyer un t-shirt de l'after, les nouveaux. Il y en a un PLM par-ci, PLM par-là. L'important, c'est les 3 points. Caca, tu es nul. Voilà, ils sont là.
C'est un spécial Fred Hermel, les t-shirts. Hein, donc,
tu choisis lequel?
Non.
Le caca, tu es nul, ça tombe bien.
Non, j'ai demandé. Gilbert Dubois, il est là, le t-shirt, vous l'avez fait ou pas?
Non, j'ai le jackpot, messieurs, dames.
Ah bah voilà, je crois que celui-ci.
Très bien, alors on va te l'envoyer, Adèle, bravo. Et puis okay. Ahmed, on t'envoie 2 places de ciné. Pourquoi? C'est En eau trouble, avec... Il y a qui là-dedans?
Voilà, Ahmed.
Il y a Jason Statham.
Et je te mets une photo dédicacée, comme ça.
Salut les gars, tiens, d'ailleurs, on a un jingle t-shirt. Ça, c'est nouveau, le jingle t-shirt.
Le jackpot, messieurs, dames. Nous avons décroché le jackpot.
Exactement.
Le chat noir, il est là. Jackpot, et à l'arrivée, on est pas sorti des poules.
Ce que t'as pris.
Mais c'est normal, vous faites des bruits sur mesure.
Non, c'est pas sur mesure.
Il mène 6-3, il fait tapis, et sur tapis, il trouve la misère.
Heureusement, je suis de bonne composition. Mais je suis de bonne composition parce que.
2m08,
avec Daniel Riolo, c'est exactement la même chose. C'est des quiz sur mesure pour cette place-là. Donc c'est bien. Demain, il y a Samy Poix qui sera à ta place, ça sera la même chose. On fera un quiz sur Strasbourg et sur le rapide de
la parole du défaitiste. Admets ta défaite, t'as perdu. T'as gagné.
C'est incroyable. Demain, le match de Bordeaux à la Gantoise et l'after dans la foulée, bien sûr. Merci Sam, merci Jérôme.
Merci, merci de quoi?
Et à demain.
Sans rien du tout.
RMC, le football show, l'after foot.